VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a prêté serment aujourd'hui pour un cinquième mandat. Dans un climat tendu, après la mort dimanche de manifestants N'Djamena lors d'une marche d'opposants qui contestaient sa réélection. Saloua Jafari.
Idou 5, Idriss Déby maintient son fauteuil, un fauteuil qu'il occupe depuis 1990. Dans son discours d'investiture, l'ancien militaire de 64 ans a promis une lutte implacable contre le terrorisme devant une quinzaine de chefs d'État africains. Parmi les invités à la cérémonie, le Nigérian Muhammadu Buhari, le Nigérian Mahamadou Issoufou, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Rokaboré du Burkina, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie ou encore le Congolais Joseph Kabila. Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian était aussi présent. L'investiture intervient dans un climat explosif. Dimanche, un jeune Tchadien a été tué par balle alors qu'il manifestait à N'Djamena à l'appel de l'opposition. Un rassemblement interdit par le pouvoir pour des raisons de sécurité. L'opposition tente tant bien que mal de se faire entendre. Ses leaders ont appelé à une journée ville morte sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. Les rues de N'Djamena étaient désertes cet après-midi.
Dans l'est de la RDC, 14 personnes ont été tuées la nuit dernière dans plusieurs localités. L'armée et des responsables locaux attribuent ces meurtres à des groupes armés congolais et étrangers. L'aide était avec Eric Manirakiza.
Selon un porte-parole de l'armée dans la province du Nord Kivu, ces crimes ont été commis par des miliciens locaux d'autodéfense appelés Mai Mai et des rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Ils ont visé la population civile et des positions des forces gouvernementales. Le capitaine Guillaume Djike a confirmé la mort de 14 personnes, dont un militaire. Ces personnes ont été tuées par balles et à la machette dans les localités de Kaunga, Kacharira, Kibirizi et à Buleusa, situées dans les territoires de Rutshuru et de Walikare. Environ 150 maisons ont également été incendiées, a précisé le capitaine Djike. Ces attaques ont eu lieu quelques heures après le départ du président Joseph Kabila, qui séjournait dans la région depuis mercredi.
Toujours en RDC, 33 organisations de promotion et de défense des droits de l'homme congolaises exhortent la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, à retirer son soutien à la commission chargée d'organiser l'élection présidentielle, dont la tenue avant la fin de l'année est devenue improbable. C'est ce qu'affirme un communiqué de cette coalition parvenu aujourd'hui à l'AFP. Pour ces organisations, la démarche actuelle de la CENI viole de manière flagrante la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution, adoptée le 30 mars, invite la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, à publier un calendrier révisé complet couvrant la totalité du cycle électoral et exige le respect des délais fixés dans la Constitution congolaise pour l'organisation des élections en RDC. L'article 73 de la Constitution stipule que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, soit le 19 septembre. Or, la CENI a commencé à enregistrer les électeurs le 31 juillet dans la province du Nord Ubangi, des opérations qui s'étendront progressivement au reste du pays et dureront 11 mois. Selon le président congolais Joseph Kabila, la CENI ne publiera le calendrier électoral qu'après l'enrôlement des électeurs, soit pas avant juin 2017. Crise au Burundi, l'ONU dénonce aujourd'hui les représailles visant 4 avocats burundais accusés par Bujumbura d'avoir fourni des informations sur le Burundi au comité de l'ONU contre la torture. Les avocats en question, Armel Nyongere, Lambert Nigarura, Dieudonné Bashira Ijizé et Vital Nshimirimana, ont contribué à un rapport accablant de la société civile burundaise présenté à l'occasion de l'examen du Burundi par le Comité contre la torture les 28 et 29 juillet à Genève. Mécontente de la présentation de ce rapport qui dénonce des cas de torture en forte augmentation, la délégation du Burundi présidée par sa ministre de la Justice a refusé de participer à la deuxième session de discussion avec le comité le 29 juillet et a quitté la Suisse. Au Burundi même, un procureur burundais a demandé à l'ordre des avocats du barreau de Bujumbura la radiation des 4 avocats en question, alléguant leur implication dans plusieurs infractions, y compris la participation à un mouvement insurrectionnel et une tentative de coup d'État.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, les appels continuent en faveur d'un dialogue politique capable d'apaiser les tensions dans le pays. Plusieurs opposants de le général Jean-Marie Michel Mokoko sont toujours détenus, alors que les manifestations des partis qui contestent la réélection du président Denis Sassou Nguesso sont interdites. Une partie de la classe politique et de la société civile préconise donc le dialogue. Les détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Un dialogue politique est-il toujours possible dans le pays? La question se pose partout et plusieurs acteurs politiques y croient dur comme fer. Omer Defundu, du mouvement Sauvons le Congo.
À force de persévérer, nous aurons le dialogue comme l'exige le peuple en ce moment. Et de toutes les façons, la situation de blocage que nous vivons nous conduit à faire quelque chose pour sortir de ce blocage. Faire autrement, c'est continuer encore avec beaucoup de malheurs, beaucoup d'arrestations, beaucoup de tueries, beaucoup d'assassinats, parce que les gens qui ne sont pas contents vont toujours manifester.
Paul-Marie Pouillet, président du Rassemblement des jeunes républicains, lui, pense même que le dialogue devra être la nourriture quotidienne en politique.
Pour aller discuter, nous sommes des Congolais, il n'y a personne qui sera un apatride ici. Nous sommes tous des Congolais, nous avons besoin de discuter, de nous parler pour que nous ayons des solutions à tous nos problèmes, quels qu'ils soient. C'est le cri de cœur que je lance à toute la classe politique, à tous les Congolais, se parler sans jamais se lasser de discuter.
Le Premier ministre Clément Mouamba avait annoncé devant l'Assemblée nationale que le dialogue politique sera au cœur de son action. Mais de quoi sera-t-il question à ce dialogue s'il venait à avoir lieu? Le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, Pierre Ngolo, qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, estime que l'élection présidentielle est terminée et que le vainqueur est connu. Pourquoi un autre dialogue? C'est Clément Mirassa de la coordination du FROCAD qui lui apporte la réponse.
S'il faut aller recompter les voix, on ira recompter, mais les résultats aujourd'hui ne traduisent pas. Et on traque les opposants, les réduire au silence, faire en sorte qu'il n'y ait pas de liberté de circuler. Pourquoi? Pourquoi? Si tant l'assurance était là dans la victoire et dans la conduite des affaires de l'État.
Pour le coordonnateur de l'IDC, Charles Zachary Bouaou, aucune question ne sera esquivée pendant cette rencontre.
Toute la question de la démocratie congolaise dévoyée nous interpelle. Vous connaissez ce qui s'est passé dans ce pays le 25 octobre, c'est un coup d'État. Ce qui s'est passé le 20 mars, c'est un hold-up électoral. On a beau dire ce que l'on veut, mais tout le monde, en interne comme en international, l'a compris. Voilà pourquoi, dans cette démarche, nous continuons à appeler à un dialogue inclusif pour que, se mettant ensemble, les Congolais puissent travailler à sortir de l'insalubrité public dans laquelle nous baignons.
À exactement une semaine de la célébration de la fête de l'indépendance du pays, de nombreux Congolais continuent à appeler à l'apaisement général. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique maintenant. Au Pakistan, plus de 70 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées aujourd'hui lorsqu'un kamikaze a fait détonner sa charge explosive. C'était au milieu d'une foule en deuil devant un hôpital du sud-ouest du pays, Jacques Aristide.
Oui, une foule d'environ 200 personnes, dont nombre d'avocats et de journalistes. Ces gens étaient rassemblés devant les urgences de l'hôpital civil de Quetta après l'assassinat quelques heures plus tôt du bâtonnier de la province du Baloutchistan. Le lourd bilan en fait le deuxième attentat, le plus meurtrier au Pakistan cette année, après un carnage dans un parc pour enfants où une bombe avait tué 75 personnes lors du week-end de Pâques à Lahore. Ni l'attentat de ce lundi, ni l'assassinat du bâtonnier n'ont été revendiqués jusque-là. Nombre de groupes armés, islamistes, anti-chiites ou encore séparatistes sont actifs au Baloutchistan, frontalier de l'Iran et de l'Afghanistan. Le Premier ministre Nawaz Sharif a condamné l'attaque et ordonné de nouvelles mesures de sécurité. L'armée s'est déployée dans et autour des hôpitaux de la ville de Quetta.
Et pour terminer, campagne présidentielle aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump prononce en ce moment même un discours sur son programme économique à Détroit dans le Michigan. Et sa rivale démocrate Hillary Clinton en fera de même à la fin de la semaine, également dans la capitale américaine de l'automobile. Donald Trump, mania de l'immobilier qui a construit des gratte-ciels et des casinos sur le littoral à New York et dans d'autres États, appelle à plusieurs propositions visant à soutenir l'économie américaine. Il a déclaré vouloir notamment diminuer les taxes et limiter la réglementation gouvernementale sur les entreprises.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.